La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Le Duo et Boris Pinot. Prise de son assurée ce soir par Stéphane Desmond, réalisation Assia Khalid. Ce soir, Corinne Rondeau et Florian Guettet se font face à notre affiche Valentin de Boulogne, réinventé Caravage. C'est au hall Napoléon du Musée du Louvre. Parlons également de l'exposition de Peter Campus, vidéo Ergo Sum au jeu de paume. Et on évoquera plus rapidement Anne Millet à la galerie Marianne Goodman. Et puis Dora Garcia et Carole Douillard à la galerie Michel Rhin. Vers 21h20, Xavier Martin nous entendra dans le petit salon pour parler des musées sous pression. Musée de la bière ? Non, musée sous pression. Puis bien sûr, des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des places de cinéma pour le film Adieu Mandalay de Midi Z, sorti aujourd'hui en salle. Direction le Louvre pour débuter cette émission pour une exposition que nous avions évoquée en parlant de celle consacrée à Vermeer. Je vais parler de celle autour de Valentin de Boulogne. On sait peu de choses sur ce peintre, notamment sur sa jeunesse. A priori, il serait né en 1591 à Coulommiers. On sait qu'il a beaucoup travaillé à Rome, qu'il a eu beaucoup de commandes, notamment de la part du pape, dont un hôtel pour la basilique Saint-Pierre de Rome, ce qui n'est quand même pas tout à fait rien, qui sera très vite collectionné par Mazarin, par Louis XIV. Le seul tableau dans la chambre du roi est une toile de Valentin de Boulogne. Valentin de Boulogne qui meurt à 41 ans des suites d'une beuverie vraisemblablement mémorable, très influencée par Caravage. Son aîné de 20 ans, Valentin de Boulogne, est présenté comme le plus éminent héritier du peintre milanais. Le Louvre possède la plus grande collection de Valentin de Boulogne et s'est associé au Metropolitan Museum de New York pour la première monographie dédiée à ce peintre. Les commissaires de l'exposition sont Keith Christiansen, John Pope Hennessy, Annick Lemoine et Sébastien Allard. Valentin de Boulogne, introduit par cette pièce de Henri Dumont. C'est Florian Guettet qui nous avait dit ah, il faut quand même parler de Valentin de Boulogne. Donc c'est Corinne Rondeau qui commence finalement cette dispute.
Eh bien alors donc je commence. Et je commence avec le David et Goliath peut-être de
bah
cette
tiens,
exposition.
Carrément.
Non, c'est vrai qu'on pourrait parler de toute la recherche qui a été faite avec des nouveaux documents qui ont été retrouvés pour essayer de recomposer cette vie qui, comme vous l'avez dit, était un peu mystérieuse. Il faut acheter le catalogue. Ce qui est plus intéressant, c'est quand même de voir un peu ce qui est sur les murs accroché au Louvre en ce moment, puisque moi, Valentin de Boulogne, par ailleurs, c'était un peu l'inconnu du soir, du musée. C'est un peu Belphégor, quoi. Et je dois dire que donc on est assez surpris de voir ce qu'on y voit. dans la mesure où c'est vrai que c'est, il vient après, il est très influencé par le, enfin, à Rome à cette époque-là, c'est les suiveurs du Caravage, avec les Bartolomeo Manfredi, avec les José de Ribera. Donc il est au milieu de ça, il est lui-même en train de regarder ses autres peintres qui se connaissent tous. C'est l'époque de la beuverie dont on sait que Poussin lui-même la nuit y participera. C'est donc le clair-obscur. Alors c'est vrai que Valentin de Boulogne a une palette plus sombre que le Caravage, puisque le titre est réinventer le Caravage. Là, je suis pas tout à fait d'accord avec le titre, mais il faut bien faire venir les spectateurs. Donc il a une palette plus sombre que le Caravage, il est moins lisse que le Caravage. Il a l'âpreté d'un Ribera, ça c'est vrai. Et en même temps, il a une composition scénique, puisqu'il y a beaucoup de scènes de cette époque-là qui est nourrie par la littérature espagnole, picaresque, mais aussi le théâtre de rue, la Commedia dell'arte, mais aussi la poésie baroque italienne. Donc il y a ce où les scènes justement de jeux, de cartes, de dés, mais aussi la chiromancie, le thème de la chiromancie avec la bohévienne. Il y a beaucoup de ces scènes-là qui reviennent. C'est une scène, enfin, ces scènes-là sont partagées par un ensemble de peintres, et Caravage y aura mis effectivement le quotidien, le ville, les choses un petit peu des mauvais garçons, et c'est très bien parce que tous ces gens-là, même Poussin un petit peu, étaient des mauvais garçons. Donc ça a créé toute cette dimension naturaliste que le Valentin de Boulogne aura pris un peu plus lui dans ses compositions. Alors c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir un peintre français quand on voit les peintres qui était à Rome à cette époque-là. Il est très différent. Il est vraiment, c'est vraiment un Romain, on pourrait dire. C'est Romain un petit peu de la diaspora, puisque il y a les Espagnols, ouais. Ribera, il y a les Italiens du Nord qui descendent à Rome. Donc il a ce partage. On reconnaît un Romain du XVIIe, du début du XVIIe siècle. Et enfin cette peinture romaine. Et par ailleurs, effectivement, il a une très grande qualité, je dirais. Et là, le David et Goliath, qui est le tableau de l'introduction. Alors, tout le monde parle du David, il a un côté féminin, cette beauté androgyne, etc. Et puis, cette tête de Goliath qui prend dans ses bras, presque il l'enlacerait. Alors, les gens sont tout à fait emballés, quel mystère, etc. Et je trouve que c'est une bonne introduction, malgré tout, pour l'œuvre de Valentin de Boulogne, parce que il a, c'est ce côté qu'il peut avoir avec Manfredi aussi. Il n'y a aucune des personnes, des figures du tableau, ne regarde vers le spectateur. Et on va voir au fur et à mesure de tous les tableaux, cette manière de voir qu'il n'y a pas une circulation homogène d'une figure à l'autre. Il y a toujours un éclatement, toujours une dispersion du regard. Ça nous regarde très peu. Ces tableaux nous regardent très peu. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est quand même une tête coupée. Donc c'est peut-être aussi une manière de déporter vers les bords,
les regards. J'aime exactement vous dire ça.
Ah bah écoutez, non, je... Non, alors...
Vous alliez me dire, j'allais vous le dire.
Ah bon? Non, alors, je oui, plaisante. Sans doute, ça peut y participer, mais c'est systématique et on peut le retrouver aussi chez Manfredi. Alors moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé sur cette manière très, quelque chose de très interrompu dans la circulation du regard qu'on peut avoir sur cette toile. Par ailleurs,
je reviendrai vers vous tout à l'heure, évidemment, Corinne Rondeau. Écoutons Florian Guettet faire entrer dans cette exposition.
Écoutez, cette exposition, elle est très riche parce que la production, l'œuvre au masculin de Valentin, c'est une soixantaine de tableaux reconnus. Il y en a 37 qui sont réunis, ce qui nous donne déjà un vrai aperçu de sa production. Et moi j'ai été assez surpris de le présenter, de le voir présenté comme une certaine fierté nationale qu'on aurait perdu, retrouvé au 18e. C'est Dubos qui le présente comme un des meilleurs peintres, un des quatre meilleurs peintres du 17e. Et puis finalement, on l'a un peu oublié à mesure que le Caravage prend de l'ampleur, la notoriété de Valentin décline. Et en fait, c'est vrai que c'est pas tout à fait une fierté nationale parce que effectivement on a du mal à retrouver un style français dedans. C'est un enfant de Rome, c'est un enfant même de Venise à la limite, mais on a l'impression qu'il a une sorte de position un peu conflictuelle avec le cercle français. D'ailleurs Poussin l'aime pas trop, il le fréquente très peu, ils ont une fois une commande.
Est-ce qu'ils sont rivaux ou pas?
Moi j'ai l'impression, en tout cas, ils sont à un moment on les associe quand même dans une commande, mais ils se fréquentent pas. Poussin a des mots parfois durs hein, sur Valentin, on voit ça dans le catalogue, mais donc non, on peut pas parler d'une communauté, en tout cas, de gestes de peintres. Alors On a une sorte de des dizaines de tableaux qui sont à peu près de grand format, en tout cas tous de même format, qui moi j'ai trouvé assez une sorte de foule en fait, avec vraiment ces débuts qui sont remplis de personnages avec une forme presque d'oppression, où c'est un peu étouffé au début, et puis petit à petit, plus on évolue, plus il y a de la respiration, plus il y a de l'ordre qui est mis, jusqu'à ce tableau final de l'allégorie qui est presque mathématique par rapport au début, qui sont plus voilà, plus impétueux, presque plus en tout cas plus fougueux presque. Mais alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec Corinne, parce que j'ai été plutôt interpellée par beaucoup de regards très francs, alors qui sont pas les personnages centraux, mais qui sont des personnages périphériques, notamment
À gauche.
Ouais, la prostituée. Il est
toujours à droite, pardon.
Oui, c'est bon. Vous n'êtes pas latéralisée, c'est pas grave.
Non, mais je suis dans le tableau, c'est ça le problème.
Oh, c'est beau. À cour ou à jardin.
Donc oui, on a ces prostituées, ces enfants qui nous regardent beaucoup, le vieillard aussi qui est un personnage qu'on va retrouver pratiquement sous les mêmes traits dans 4 ou 5 tableaux dans l'exposition, et cela nous interpelle directement. Et il me semble que c'est un des enjeux aussi de ces tableaux-là, de détourner l'attention de l'action première, parce que finalement il y a toute une sorte de mise en place d'une dramaturgie de l'après-coup. C'est-à-dire qu'on nous présente jamais l'action pleine, le spectacle, mais toujours le moment d'après, le moment voilà, bah, vous parliez du David, mais effectivement le David, c'est pas le David qui est conquérant qui est en train de se battre, mais le David qui se rend compte de son geste et effectivement de du fait qu'il est en train de basculer dans l'âge adulte avec ses responsabilités, etc. On a la même chose dans le jugement de Suzanne, où on nous présente pas la scène de voyeur, mais on nous présente le moment où on reconnaît son innocence. On a le jugement de Salomon, qui insiste aussi beaucoup sur cette dimension morale. Donc il y a toute une sorte de différement ou de déphasage par rapport aux sujets principaux qu'on serait en droit d'attendre sur la grande peinture du XVIIe.
Corinne Rondeau.
Oui, non, mais j'entends bien qu'il y a des personnages. Non, mais il y a des personnages, effectivement, et c'est systématique. Il est sur la droite du tableau. Parfois, il y en a un, mais c'est très rare, sur la gauche. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas une entrée dans le tableau pour faire circuler le regard dans une cohérence. C'est ça que je veux dire. Puisqu'il est dans la période où, effectivement, depuis la Renaissance, et plus particulièrement à cette époque-là, on fait rentrer quelque chose du spectateur dans le tableau par toute une certaine rhétorique de gestes, et puisqu'il y a évidemment les affectifs, ces gestes du tableau qui sont en jeu dans ces scènes-là. Mais je trouve qu'il a une manière de venir briser quelque chose de l'ensemble. Il y a toujours des petits groupes qui se jouent, et il a, d'ailleurs, chaque fois que le personnage, sur cette droite, il suffit de regarder l'inclinaison de sa tête et de passer une droite, une ligne à l'intérieur, et vous avez la ligne sur laquelle toutes les actions se font. Servir un verre, boire au verre, lever, regarder la ligne de la main, ou alors simplement être dans le geste de Salomon. Donc c'est une oblique, c'est une horizontale, c'est systématique. Ce regard, il est une géométrisation qui va donner l'ordonnance du tableau. Mais par ailleurs, moi ce qui m'intéressait, c'est la manière dont il va travailler peu à peu une sorte de sagesse dans son tableau. Il va dégager beaucoup plus de figures, puisqu'au début, il y en a beaucoup plus. Vous parliez d'impétuosité, je dirais d'une âpreté et une dynamique. Les foules, notamment le Christ chassant les marchands du temple, celui de 1618, il y a un mouvement comme ça, on a l'impression qu'on entend le bruit que fait le Christ en soulevant la table, et tout le paquet de personnages masculins dont personne d'ailleurs ne nous regarde là pour le coup. Et puis l'autre, plus tard, en 1627, où toujours le Christ, puisqu'il fait des séries, là on voit qu'il y a une dispersion plus grande, mais il est aussi dans une posture, des gestes beaucoup plus cadrés, beaucoup plus classiques, et on le voit peu à peu. Vous parliez tout à l'heure du jugement de Salomon, il va enlever des figures, la lumière est plus claire, donc d'un coup, il y a une cristallisation du sujet avec ses figures qui sont très nettes. Donc il cherche à déblayer. Alors moi, je préfère quand il est un petit peu dans l'énervement, quand il est dans la palette plus noire, qui d'un coup, il y a du blanc comme ça, parce que c'est avec la lumière qu'il faut regarder ses tableaux. On voit bien que si on la regarde, il réduit déjà la question de qu'est-ce qu'il faut regarder. En même temps, c'est vrai qu'il est beaucoup plus secret qu'un Caravage. Par exemple, les tricheurs qu'il aurait beaucoup regardé pour le pour peindre ses propres tricheurs. Si on regarde les deux tableaux côte à côte, le Caravage met tout le monde à côté, avec une sorte de transparence de tous les trois personnages. Par ailleurs, Valentin va mettre l'intrigant derrière celui qui va se faire avoir par le... Mais il est caché, il est vraiment masqué, il louche aussi. D'ailleurs, quand vous regardez ce regard qui louche, vous éclatez de rire, parce qu'il y a quelque chose d'une confusion qui se joue, et en même temps, celui qui louche dans la tradition, c'est celui qui est mauvais. Donc, il y a tout un comique, parce que c'est aussi celui qui, alors pour le coup, ça, je crois l'avoir rarement vu à ce point-là dans des tableaux, les figures soient ou sont belles ou laides. Et la vie, c'est des gens laids et des gens beaux. Et ça, il a une manière quand même de mettre tout le monde dans le tableau qui est assez... qui est assez prenante, je dois dire.
Vous parlez du déphasage temporel aussi tout à l'heure, Florian Guettet. Alors, ce qui n'est pas toujours le cas, je pense à son Judith et Holoferne, là, on est vraiment... Elle est vraiment en train de découper la tête. Il y a quand même aussi de l'action.
Elle est tranquille.
Ah, mais elle est, on a l'impression qu'elle est à l'étal de sa boucherie. Elle est en train de débiter la tête. Hein. C'est quand même assez impressionnant, avec un regard effectivement très, très serein sur le visiteur. Mais il y a effectivement après cette allégorie finale qui est quand même aussi très particulière, sur laquelle on reviendra sans doute, mais qui me semble presque être l'œuvre d'un autre peintre, parce qu'elle est quand même dans une composition qui ressemble à rien de ce qu'on a vu auparavant. Il y a quand même des pas de côté, où il y a quand même des surprises dans ce parcours.
Ah oui, il y a des surprises. Effectivement, moi, je pense que la phase finale, en fait, de son œuvre, qui est en fait des œuvres de commande du cardinal Barberini, donc le neveu du pape. Et effectivement, on a l'impression qu'il se discipline, alors qu'au début, il est quand même dans une forme d'expression beaucoup plus
libre. Ah, c'est
débraillé, oui. Oui, oui. Et alors moi, effectivement, on le voit dès la deuxième salle, pas la première, mais il y a une bizarrerie extrême, c'est la scène. Il peint une scène avec donc les attributs traditionnels de Jésus et de son entourage, et puis un Saint Jean qui apparaît en plein milieu de la table, qui couvre qui détourne le regard de Jésus, qui semble rêveur, presque endormi, une sorte de Saint Jean très juvénile qui semble ne pas du tout adhérer à la scène, ou pas du tout être dans présent à la scène. Donc cette première forme là de mélancolie un peu mise en plein milieu du tableau, et va être en fait, à mon avis, une des clés de lecture de ces tableaux-là, de cette production. Alors effectivement, on ne rentre pas par le tableau par une sorte de géométrie du regard, etc. Moi, j'ai l'impression qu'on y rentre par empathie. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail d'affect très très présent. Il y a un travail déjà sur la peau, sur la chair. Vous parliez tout à l'heure de ces coloris très particuliers, avec une forme parfois de transparence très sensuelle, qui peut nous faire parfois toucher du regard ces personnages-là. Et puis, il y a une vraie démonstration, une vraie palette d'affects. La mélancolie, évidemment. Alors ça, bon, il est représenté plusieurs fois avec une sorte de tentative de la part des commissaires de vouloir faire les dialoguer entre eux. Mais c'est pas forcément ces affects-là qui sont les plus intéressants. Moi, je trouve qu'il y a une grande violence qu'il arrive malgré tout à traduire, une violence de l'époque, qu'il arrive à traduire à travers des scènes bibliques qui sont pas qui s'y prêtent pas forcément. Il y a beaucoup de rivalité, de croisement comme ça, de bras qui se croisent un peu comme des fers, et puis une forme de tristesse plus que de mélancolie qui est liée à cette vie de beuverie, d'ivresse, etc., comme si finalement la joie escomptée de ces moments de convivialité était se retourner contre elle-même, et qu'on était plutôt dans une forme assez prémonitoire de sa fin de vie, puisqu'il va finir finalement à la suite d'une soirée bien arrosée dans une eau glacée d'une fontaine, et mourir d'une fièvre à cette occasion.
Une question, Martinet ?
Juste une question. Je me disais que c'était assez étonnant de la part du neveu du pape, c'est ça, d'avoir recommandé de tels tableaux, justement, d'un peintre qui n'était pas académique et qui ne respectait pas, qui n'était pas en conformité avec, on va dire, le canon des scènes religieuses. Ouais.
Non,
à l'époque, il n'y a pas de problème.
Non, à l'époque, ça passait. Ils étaient tous dans le même.
Ils étaient tous dans la même fontaine.
Exactement. Dernier mot, effectivement, Corinne Rondeau.
Oui, alors, moi, sur cette question de la mélancolie, ça me bassine, parce que c'est pas parce que. Non, mais c'est le discours beaucoup qui est marqué par l'accrochage, etc. Moi, ça me bassine un peu parce que c'est pas parce que vous avez des regards qui sont. Et c'est vrai qu'il y a des regards très intériorisés dans la peinture, dans les personnages. stage chez Valentin de Boulogne. Par ailleurs, c'est pas la mélancolie. On peut aussi avoir des personnages qui s'ennuient. Et puis, il peut y avoir aussi tout un rapport au fait de montrer sans montrer. Cette manière d'être avec la peinture, ce n'est pas, je dirais, pas forcément une frontalité qui est demandée. Et je trouve que l'éclatement de ces regards qui ne se joue pas vers le spectateur de manière si directe, et justement, je dirais, le symptôme de ce mot de mélancolie. Où est-ce que ça se trouve chez Valentin de Boulogne? Ça, c'est la vraie question. Parce que ce type, il va mettre quand même le Saint-Jean, comme le remarquait Florian, le Saint-Jean devant le Christ, comme il y a la tête de Goliath devant
David.
Et je dois dire que vous parliez tout à l'heure aussi, et je vais revenir sur ces têtes que les hommes ont face à eux, qu'ils soient le Christ ou qu'ils soient le David juvénile, il y a dans la Judith dont vous parliez, Arnaud, une tête en arrière et qui m'a fait penser au Marsyas et à Apollon de Ribera au musée des Capodimonte à Naples, qui est lui peint beaucoup plus tardivement. Mais alors, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est un Ribera. Quand j'ai regardé les dates, je me suis dit, mais de Boulogne a peint avant cette tête inversée, crispée au niveau du front, parce que le Marsyas et Apollon de Ribera, moi quand je l'ai vu, j'ai fait deux pas en arrière. C'est le tableau qui m'a fait le plus peur de ma vie et qui a vraiment marqué.
Eh bien, il l'a emprunté à Valentin de Boulogne.
Non, pas du tout. En fait, ils ont tous pris l'autoportrait du Caravage. À la fois le David qui tend la tête, qui est avachi et qui est cette grosse tête qu'on peut retrouver chez le Goliath, et en même temps la tête de la Gorgone dans laquelle il fait aussi son autoportrait, qui est un rictus très fortement marqué. Et là on voit que carrément, moi c'est mon interprétation, je suis pas historien donc je peux y aller, hein. Et j'ai l'impression qu'ils ont pris cette tête du Caravage, ils ne sont pas que les suiveurs, ils sont aussi, je dirais, ceux qui viennent envelopper cette peinture du clair-obscur pour en faire autre chose, ils font rouler cette tête du Caravage pour en faire leur peinture. Et effectivement, c'est du tréfonds, c'est des mauvais garçons, ça n'empêche pas de leur faire faire des commandes, et quand on arrive à cette allégorie de la fin...
Alors oui, un mot.
Ah ben non, c'est pas possible quoi.
D'accord,
c'est d'une laideur absolue. Alors évidemment, il est peut-être pas bon à la verticalité parce que c'est un tableau très haut. Alors il a répondu par la commande, mais en même temps il y a son côté naturaliste del naturale qui revient, et là vous avez un tibre qui est très poilu. Enfin, pardon, je postillonne, pardon Xavier. C'est un tableau que j'ai pas pu regarder tellement je l'ai trouvé étonnant, pas la même touche, pas les mêmes couleurs. Et puis il est trop haut, puis comme je suis trop petite, ben, je ne suis pas allée jusqu'en haut.
Florian,
oui, je crois que le glorieux n'est pas vraiment son sujet. Quoi. Forcément, le trivial lui va mieux. Moi, j'ai été plus sensible effectivement au Saint-Jean-Baptiste moustachu, qui est finalement assez séduisant. Et, voilà, on pense en plus que c'est un autoportrait, donc où il peut en fait mettre de lui. J'ai l'impression qu'effectivement, dans cette allégorie, il n'a pas mis de lui. Quoi. Ouais. Il a répondu strictement à la commande. Quoi. Donc il est plus dissimulé. Le plus bon élève quand il fait ça, et du coup il est dans une stratégie de retrait.
Valentin de Boulogne, l'exposition s'appelle Réinventer Caravage, il faut bien faire venir les gens, comme dirait Corinne Rondeau. C'est jusqu'au 22 mai au Napoléon, musée du Louvre à Paris. Il y a plusieurs conférences aussi à venir, il y en a une demain en fin d'après-midi par exemple autour de l'exposition, et puis un catalogue coédité par le Louvre et Officina Libraria.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et à suivre dans La Dispute, Peter Campus, Anne Millet, Dora Garcia, Carole Douillard. Avant cela, on va suivre Xavier Martinet dans Le Petit Salon. Très solennellement bonsoir Xavier Martinet, mais en fait on vous a déjà entendu dans cette émission, mais je vous salue à nouveau Xavier.
Je vous salue aussi.
Merci de nous accueillir dans votre petit salon, même s'il y a pas mal de pression ce soir, je l'ai dit, dans ce petit salon.
Pression, dépression, intrusion en tout cas politique dans les milieux des beaux-arts et surtout les musées en Russie. C'est une série d'articles d'Emmanuel Greenspan, le correspondant pour le Journal des Arts à Moscou, qui nous décrit cette situation en fait qui évolue depuis 5 ans, un tournant politique répète-t-il. Pour nos auditeurs, la situation était assez calme, on pourrait dire, depuis les procès faits au Pussy Riot en 2012. Mais de nouveaux éléments montrent que les choses bougent. Un des plus récents, c'est cette saisie de documents effectués il y a 10 jours par la police dans le musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, qui contient, vous le savez, les plus grandes collections du monde d'objets et peintures anciennes. Une énième commission d'inspection, officiellement du ministère de la Culture, commission de contrôle, en fait, probablement des membres du FSB, dit un des responsables scientifiques du département de l'art occidental, qui a alerté le premier sur Facebook. Énième parce que ces dernières semaines, d'autres visites de ce genre ont eu lieu, rapporte The Art Newspaper. L'affaire concerne ici des documents sur un des plus grands transferts d'œuvres d'art, 250 tableaux vendus par l'Ermitage entre 1920 et 1930, parce que le Kremlin à l'époque cherchait à se renflouer. Alors l'opération est connue, elle n'est pas polémique historiquement, mais les 8 volumes d'archives sur le sujet ont été retirés des étagères du musée. La commission aurait même interdit la publication du 9e volume. La bureaucratie est-elle devenue folle, ou alors c'est un désir paranoïaque de réécrire l'histoire? C'est du Kafka ou c'est du Orwell, poursuit ce curateur, selon lequel les mêmes événements se sont produits à Moscou, au musée Pushkin et au musée d'histoire également. Il faut faire attention cependant. D'une part, l'Ermitage minimise. Il a répondu officiellement et au journal The Art Newspaper Russia qu'il n'y avait pas d'interdiction de publier ses archives et qu'il s'agissait de perfectionner, au contraire, le système d'archives. D'autre part, cette affaire survient alors que le musée de Saint-Pétersbourg fait aussi l'objet d'une véritable enquête de police depuis quelques semaines liée à des soupçons de détournement de fonds. D'ailleurs, le 30 mars, le directeur adjoint du musée était arrêté, et cette fois-ci bien par le FSB, dit lui-même l'Ermitage. Du côté du musée Pushkin à Moscou, on lâche un laconique: la situation est très compliquée. Reste donc cette saisie d'archives et les soupçons de réécriture officielle de l'histoire. Or, celle-ci coïncide avec un moment clé de la politique culturelle russe où, je cite Emmanuel Greenspan, le ministère de la Culture vient de réaliser qu'il pouvait promouvoir un art contemporain alternatif et ultra-conservateur. Ça fait l'objet d'un second article. Vous allez voir de quoi il s'agit. Emmanuel Greenspan note non seulement la proximité de plus en plus étroite entre le Kremlin et une génération d'artistes qu'on pourrait dire spécialisés dans les sculptures ou toiles souvent monumentales, de princes, de scènes guerrières ou religieuses. Plus largement, je cite Emmanuel Greenspan, le réalisme socialiste prend du galon. L'année dernière, un nouveau palier a été franchi avec un engouement inédit de la nouvelle bourgeoisie russe pour les maîtres soviétiques du genre. La galerie d'État Tretiakov à Moscou n'a pas hésité à mêler, elle, les contemporains officiels et ses maîtres disparus. Et d'ailleurs, une exposition d'État fin 2016 a, elle, mélangé contemporains respectés dans le monde de l'art mondial et puis les ultranationalistes russes. Un tournant dans les rapports entre l'État russe et l'art contemporain, continue Emmanuel Greenspan. Et il note aussi un retour au format soviétique de l'exposition collective. C'est discutable. Là encore, situation en tout cas ambiguë et parfois opaque. Elle l'est moins, pour terminer, en Turquie et en Pologne, même s'il ne s'agit pas de musée des Beaux-Arts. Turquie, où l'agence Anadolu a annoncé le 12 avril un musée en hommage aux victimes du coup d'État, 12 mm² sur la base aérienne Karaman Kazan, un des symboles justement de ce coup d'État. Pologne, où là, le très moderne musée anti-guerre sera remodelé en musée au service de la politique historique du pays, ce parti au pouvoir, écrit Gazeta Wyborcza, quotidien d'opposition. Les parcours de ce musée insisteront moins donc sur les victimes civiles européennes de l'extermination et la guerre que sur la souffrance et l'héroïsme militaire des Polonais. Voilà, Russia Beyond the Headlines, le site d'information officielle, a interviewé lui 3 directrices de musées français pour montrer la créativité des musées russes. J'ai été étonné, dit l'une d'entre elles, par l'énergie de mes collègues russes et par la façon de travailler à l'intégration de l'art contemporain dans un contexte culturel global, y compris au sein des plus hautes institutions. De fait, c'est le cas à l'Ermitage depuis 2014. Alors, qu'en pensez-vous tout simplement? Et puis, plus largement, jusqu'où les musées d'art peuvent-ils réécrire l'histoire?
Ah ben voilà, qui doit faire des objets de dissertation très longue, mais oui, enfin la présence de l'art contemporain du moment qui va dans le bon sens. C'est surtout ce qu'on a entendu par rapport à votre chronique, mon cher Xavier. Florian Guettet, le retour du surréalisme socialiste, ça, vous nous avez dit ça quand même.
Oui, enfin, s'il n'a jamais trop quitté le paysage russe, non plus.
Pas complètement, oui.
Bon, que l'art puisse être un instrument de propagande pour les régimes autoritaires, c'est une histoire de la propagande qu'on connaît depuis longtemps. Moi, ce que ça m'évoque, en tout cas, cette histoire-là, c'est que c'est symptomatique, ou disons que ça révèle quelque chose de... de, j'allais dire, la nature de la conservation ou du geste de conservation qui, de toute façon, est intrinsèquement politique. Il a toujours été, il le sera toujours, il l'est évidemment dans les exemples que Xavier a cités. C'est finalement cette articulation du choix d'une conservation à une autorité, qu'elle soit liée à un pouvoir ou pas, est comprise en fait depuis le début de la cité grecque. C'était Hannah Arendt qui en parlait, mais Derrida aussi dans Mal d'archives, où il reprend l'étymologie d'arché et qui montre que arché, c'est à la fois commencement et commandement, et que les archéions, qui étaient en fait des salles de magistrats où on emmagasinait, où on conservait, les archives, étaient de toute façon des lieux de choix, des lieux de décision. C'est-à-dire que les magistrats décidaient ce qu'on a le droit de garder et ce qu'on doit oublier pour faire l'histoire. Donc finalement, exposer, archiver, conserver, documenter, ça met d'emblée en jeu une relation de pouvoir et effectivement cette thématique doit être redoublée dans des contextes un peu plus totalitaires. Mais faudrait pas limiter finalement cette question à des régimes un peu spéciaux, un peu dur, puisque finalement, j'ai l'impression, en tout cas, si on reprend la définition que donne Deleuze d'informer, finalement, informer, c'est communiquer de l'information, c'est-à-dire nous dire ce que l'on est censé croire. Et finalement, j'ai l'impression que même dans les démocraties occidentales, du moment où on se place dans cet intérêt de communiquer, d'informer, ou de la pédagogie, etc., on tombe de toute façon dans ces problématiques-là. Donc je ne crois pas intrinsèquement à la neutralité, si vous voulez, du geste de conservation, ni à son objectivité. Et tant mieux, parce que conserver, de toute façon, c'est faire des choix.
Très bien. Corinne Rondeau.
Écoutez, ajouter à ça Non. Alors pour le coup, là, je suis à 200% d'accord avec Florian. Le monde démocratique n'est pas séparé de choix dans des situations dictatoriales très fortes. Et ça, je pense qu'on va y aller de plus en plus. On vit quand même sous un régime de mot d'ordre en continu qui rejoint la dimension de l'information, de la communication, citant Deleuze. Donc là, effectivement, je pense que c'est pas la peine de regarder trop loin pour s'énerver. Il ne faut pas s'énerver. Parce que je veux dire, simplement à l'intérieur de notre pays et au-delà de la question de l'art, n'étant que dans la culture, on pourrait avoir les cheveux sur la tête bien droit pendant longtemps. Donc il faut arrêter, je pense, de se rassurer avec le fait qu'il y a des systèmes qui sont encore dictatoriaux. Et puis après tout, ils peuvent fêter leur 100 ans de révolution, ces chers Russes, en rien injectant quelque chose d'un réalisme socialiste dont ils ont besoin. Par ailleurs... Oui, je crois que la question du musée et de l'archivage a toujours été une question de choix, évidemment. Même aujourd'hui dans les bibliothèques, il faut savoir qu'on jette, parce qu'il y a des documents qui ne sont plus utiles, parce qu'ils ne sont plus depuis 100 ans, 200 ans ou 300 ans travaillés. Ils ne sont plus non plus possiblement consultés et conservables aussi. Donc il y a des choix qui se font tout le temps dans toutes les bibliothèques, les musées. Enfin, pourquoi on voit ce qu'on voit au Louvre et qu'il n'y a jamais les tableaux qui sont dans les réserves? Donc toutes ces questions de choix, elles appartiennent effectivement à ceux qu'on veut montrer.
Bon, on a fait sortir Valentin Boulogne des caves.
Voilà. Mais par ailleurs, il y a toujours la nécessité précieuse et qui, moi, me manque de plus en plus, ce sont des historiens. Je trouve que les historiens n'ont pas assez la parole, parce que le problème, si vous voulez, il y a une époque où il y avait des tableaux d'histoire. Le tableau d'histoire, et je vais en parler un peu tout à l'heure avec mon coup de cœur, mais il venait toujours après l'histoire. Là, la question qui nous est posée, c'est comment on fait à la fois notre histoire et on la représente. Et on n'a pas la durée pour les choses. Donc moi, ce qui m'importe, je crois, c'est qu'il y a aussi, par le biais de la puissance des pouvoirs, et non pas du politique, même si d'un coup, la politique devient du pouvoir, comme dans les super oligarchies, qu'elles soient démocratiques ou autoritaires, il y a cette idée que l'histoire est biaisée. Et on oublie la question de l'histoire. Et je crois que les historiens redoivent reprendre, je dirais, le pas sur le discours. Et pas que des critiques ou pas que des philosophes. Enfin bon, quand on voit ce que c'est le degré de la philosophie en France aujourd'hui, on peut se calmer un petit peu, de toute façon. Donc ce qui est important pour moi, c'est qu'il y a une puissance, il y a des pouvoirs qui viennent aussi gommer une ligne, je dirais, de discours historique. Et je crois que ce qui nous manque, c'est de pas oublier l'histoire qui est pas vieille, parce qu'on oublie l'histoire la plus proche de nous, c'est celle qu'on oublie le plus vite. Ce qui est, enfin, moi j'en ai été moi-même la victime de me dire mais comment j'ai pu oublier un truc si important? Mais c'est donc là, je crois qu'au lieu d'être dans ces mots d'ordre, ces opinions qui sans arrêt ne font qu'effacer, nous demandent de prendre des positions en permanence qui ne servent à rien. Je crois qu'il faut des historiens. Pour moi, c'est ce qui est important et qui manque en fait à ces institutions aussi, enfin, à cause de la situation aussi.
Xavier Martinet.
La deuxième chose que je me disais au sujet de cette histoire, peut-être c'était moins sa portée politique, où effectivement c'est quasiment normal pour un pouvoir, quelque pouvoir que ce soit, de vouloir magnifier son histoire, et les Russes ont bien le droit de le faire aussi. Non, ce que je trouvais intéressant à un niveau peut-être plus technique et de politique culturelle, c'était, il me semblait, depuis quelques années, la fine compréhension qu'avait développé aussi le ministère de la Culture et les institutions russes de leur propre milieu culturel et de leurs propres artistes contemporains, et cette manière très intéressante, on peut en penser ce qu'on veut, en tout cas vraiment assez étonnante, j'ai l'impression, de mêler à la fois ces artistes contemporains qui sont des artistes mondiaux exposés un peu partout et on va dire non controversés, et puis aussi les ultranationalistes également, en fait tout le panel. Alors on pourra dire c'est de l'intrusion du politique dans les musées, c'est une manière de forcer la main sans forcément ternir l'image. En même temps, je trouvais que c'était un geste politique vraiment intéressant et techniquement fin. Voilà, c'était la réflexion.
Florian Guettet.
Oui, un dernier mot quand même pour dire que le régime russe a des antécédents quand même.
Ils ont une histoire, comme dirait Corinne Rondeau.
Et Poutine en particulier. Le procès de Andrei Irofev, par exemple, c'était 2009.
L'art interdit, c'était le nom de l'exposition.
Exactement. Ouais. Et puis si on voit maintenant dans les anciennes républiques communistes aussi, la politique culturelle, c'est encore très, très, très imprégné d'interventionnisme politique, quoi. Une dernière phrase quand même, pour dire que c'est assez étonnant, regrettable même, qu'on se rende compte de la force politique d'un art que dans son versant négatif, et qu'on ne lui accorde pas le même pouvoir quand il s'agit de distribuer des subventions ou de décider de politique culturelle. Et ça, oui, encore une fois, c'est regrettable.
À suivre ici et ailleurs. Il est temps en effet de découvrir les recommandations des critiques présents ce soir. Corinne Rondeau, vous avez commencé d'annoncer la couleur, mais maintenant il va falloir développer. Galerie Marianne Goodman à Paris jusqu'au 27 mai. Anne Millet.
Oui, alors on avait pu voir quelques-unes de ces photos au bal en 2011 dans Topologie de la guerre de Jean-Yves Joinet. Alors on a desserré effectivement des 29 Palms et Small War Ambush qu'il y avait dans l'exposition. Donc ces deux séries, c'est de 2004 et 2003-2004, sont des séries qui se à la fois, c'est 29 Palms, c'est le camp d'entraînement militaire pour l'Irak. Les soldats vont partir, donc ils s'entraînent dans ce désert californien. Et puis le Small War Ambush, ce sont des réenactments, les reconstitutions de la guerre du Vietnam. Alors il faut savoir que Anne Milling s'inscrit vraiment avec eux. Elle le participe en durée pendant 4 ans, par exemple. Elle a fait ses reconstitutions de la guerre du Vietnam en faisant elle-même ou la Viet Cong ou la soldat, la traître, enfin bon, peu importe. C'est quelqu'un qui travaille à la chambre, donc autant vous dire que c'est pas le petit Leica à la sauvette. Ce sont des photos dont celles-ci sont en noir et blanc. Moi, ce qui m'a marqué, ça c'est pour vous rappeler éventuellement, si vous aviez vu Topologie de la guerre, vous reverrez une partie, mais pas, parce que c'était déjà des extraits, donc vous verrez d'autres photos de ces séries-là. Mais c'est la série, la dernière, qui s'appelle The Silent General, de 2016, où il y a d'ailleurs sur un mur quelqu'un qui a fêté la venue de leur nouveau président Trump. Je vous laisse, il y a un anarchiste, mais je vous laisse aller à l'exposition pour voir le reste de la phrase. Ces photos, cette fois-ci, toujours à la chambre et toujours de grand format, en couleur. Et ce qui m'a arrêtée, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu en parler, c'est qu'elle est elle est sur le tournage du film sur la guerre de sécession qu'on a vu, Free States of Jones. Mm-hmm. Et elle photographie le tournage, et il y a un opérateur qui tend un rideau blanc, et derrière une explosion de terre. Alors, il y a quelque chose déjà qui se rejoue de ses propres images, puisque la guerre, soit 29 Palms, c'est on va faire la guerre, et le reenactment, c'est la guerre est faite. Mmh. Et donc, ils sont toujours dans un principe d'imitation. Et là, d'un coup, c'est le cinéma à l'intérieur de l'image qui se rejoue entre le simulacre et le réel, et qui se déploie aussi dans d'autres séries qu'elle a pu faire, notamment elle est partie sur un porte-avions avec l'armée américaine, avec des GI, qui sont, eux, publiés dans une superbe édition chez Aperture, qui sont absolument magnifiques, qui sont posés, c'est vraiment des tableaux d'histoire. Parce que ce qui m'intéresse évidemment, c'est que ce tableau d'histoire, il se fait au présent. Mmh. Donc, il se fait au point où on ne sait plus où est la guerre, sauf peut-être de se dire que la guerre est déjà dans l'image. Et cette manière qu'elle a de cadrer, de composer, parce qu'elle compose avec, on le voit à la qualité du cadre, à la qualité des détails, mais aussi aux espacements. Enfin, c'est remarquable dans les contrastes, les couleurs. C'est vraiment un regard sur qu'est-ce qui est l'élément objectif de ces images-là, mais aussi qu'est-ce qu'on enregistre. Et par ailleurs, dans le showroom de la librairie, il y a une série qu'elle a fait en 94 où elle retourne au Vietnam, puisqu'elle en est partie en 75. Elle y revient, c'est une petite série sur le Vietnam. Et il y a une photo d'un enfant qui est à l'arrêt, tout petit enfant, qui porte, au bout de bras, des petits sacs. Et il est sur un chemin où tout est blanc. Ça doit être un jour de brume ou un petit matin. Mais sur ces chemins, à côté de l'arbre, ce n'est que blanc. Il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. Et encore, elle est dans cette espèce de dualité. Parce que ces photographies sont assez magnifiques.
Anne Millet, c'est à la galerie Marianne Goodman. Vous nous donnez très envie d'y aller. C'est jusqu'au 27 mai dans le 3e arrondissement de Paris. Florian Guettet nous emmène à la galerie Michel Rhin.
Oui, alors pour un coup de cœur qui est presque décerné à Michel Rhin lui-même. Oui. Parce que je trouve que c'est très courageux de faire une exposition qui commercialement est quand même compliquée pour lui, puisqu'il y a très peu d'œuvres, très peu de matière. Il y a une sorte de concision formelle, mais une vraie densité de propos dans un espace qui est quasiment immaculé. Hein, il est presque blanc, juste presque souillé par quelques écritures théoriques qui viendraient ornementer, on va dire, le sol et les murs. Mais voilà, on a une sorte de d'épure assez complète. Alors, on y trouve confronté finalement le travail de deux plasticiennes, Dora Garcia et Carole Douillard, qui vient juste de rentrer dans cette galerie. Alors, à première vue, tout va les distinguer, puisque Dora Garcia est vraiment un projet purement conceptuel, très discursif, assez dématérialisé. Et puis, à l'étage, on a un projet photo, plus figuratif, plus sensible, plus affecté, celui de Carole Douillard. Alors Dora Garcia, elle continue en fait sur la lancée de ses projets précédents. On retrouve plusieurs types d'écriture, puisque ça s'appelle écrit, qui sont inspirés par ses lectures, Heidegger, Lacan, et surtout Oscar Massotta. On retrouve une de ses Golden Sentences, Nous ne parvenons jamais à des pensées, elles viennent à nous, qui est attribuée à Heidegger, même si je pense que Heidegger l'a piqué à Nietzsche. des reproductions.
On les appellera pour savoir.
Voilà, des reproductions de schéma lacanien qui montrent bien cette plasticité du concept, cette figurabilité très importante chez Lacan, des carnets à noter que je trouve très intimes puisque ce sont les propres notes en fait au cours de la lecture de Dora Garcia, et puis un film en cours de réalisation, Segunda Bess, qui va venir animer un petit peu l'ensemble. Alors, tout ça produit une sorte d'asile du moi. Il y a des cercles tracés au mur qui vont séparer différents espaces. On a une forme de trou au sol, enfin un cercle, hein, mais qui représente un trou qui est à la fois cette sorte de tautologie de l'art décrite dans les écrits de Lacan, mais aussi le trou de la chose, hein, l'origine du désir. En revanche, à l'étage, on a un projet beaucoup plus simple d'accès, on va dire, puisque c'est Carole Douillard qui présente 134 photographies qui reviennent de son projet qu'elle a mené depuis 2014 en Algérie, sur les terres de sa mère qui en est donc originaire. Elle, qui est performeuse, est attentive en fait à cette histoire de corps et de double corps qu'il y a entre la France et l'Algérie, et comment en fait tout ça se recompose. Elle déploie donc du coup tout son vocabulaire. Des trous, des reflets, des vues de lune, quelques autoportraits mais très rares. Et puis les hittites, c'est ces hommes qui sont désœuvrés, qui attendent, qui rappellent évidemment une des obsessions de Carole Douillard dans ses performances. Et moi je trouve que voilà, c'était une belle idée finalement de faire se rencontrer ces deux univers qui ont l'air comme ça opposés, ces deux façons d'interroger la question de l'identité et de son rapport au lieu, deux intimités, deux écritures intimes et deux façons de donner une visibilité à des inconscients engagés.
Dora Garcia et Carole Douillard, donc toutes deux exposées à la galerie Michel Rhin à Paris jusqu'au 13 mai.
France Culture,
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute art plastique qui nous amène à présent tout près du Louvre, dont nous parlions tout à l'heure, au Jeu de Paume, pour y découvrir l'exposition consacrée à Peter Campus sous le titre Video Ergo Sum, pionnier de l'art vidéo. Peter Campus est né à New York en 1934. Bill Viola fut notamment son assistant. Vidéo, installation, photographie, Peter Campus a multiplié les inventions formelles et dans ses œuvres vidéo récentes, il pousse la précision jusqu'à travailler l'image pixel par pixel, caméra très haute définition, Video Ergo Sum, donc c'est le titre de cette première exposition monographique de l'artiste en France, exposition centrée sur la vidéo, donc depuis les recherches des années 70 jusqu'à ses travaux les plus récents en vidéo numérique, commissaire Anne-Marie Duguay. Peter Campus, donc au musée du Jeu de Paume. On va suivre et on va être pas mal suivi dans cette exposition. On va se rencontrer plein de fois, se démultiplier. Ça vous a fait peur, Corinne, je suis sûr. Donc je commence avec Florian Guettet.
Oui, bah, moi-même j'ai fait une expérience assez schizophrénique, puisque on peut pas dire que l'exposition m'ait enthousiasmé du début à la fin, et en revanche l'œuvre de Peter Campus m'a interrogé pendant plusieurs jours après. Donc il y avait déjà cette première schizophrénie là, et puis une deuxième schizophrénie entre les deux parties très claires de cette expo, un peu didactique d'ailleurs, mais il y a vraiment deux parties, l'une qui distingue deux espaces, deux périodes de production et deux rapports à l'image. Donc la première partie qui est plutôt tournée vers l'intériorité psychique, psychologique, et puis une autre tournée vers l'extérieur, vers la nature, vers le paysage. Alors l'ambiance générale est assez austère. Alors évidemment, ça tient à l'épure du minimalisme, etc. Mais c'est aussi une tonalité affective qui est reconduite de ces espaces de surveillance, hein, des dispositifs qu'on nous présente. Donc une forme de sécheresse qui met déjà dans une forme d'inconfort, ou en tout cas, on n'est pas tout à fait dans une adhésion totale à ce qui se passe. Alors le premier corpus est composé d'installations réalisées entre 71 et 73, qui sont des dispositifs vidéo en circuit fermé, comme il le dit, qui multiplient donc les focales et qui invitent à une forme d'interaction assez ludique. Alors pour ça, moi, je suis pas le meilleur public.
Moi, j'aime bien, moi.
Ouais. Et il y avait des enfants qui aimaient ça aussi.
Voilà, c'est un enfant.
Et puis parce qu'il y a une forme d'autorité là-dedans, c'est-à-dire qu'il assigne quand même la position du spectateur à un endroit précis. Et si on veut faire l'expérience de ces installations, il faut se trouver à ce point précis. Alors quand c'est au milieu de l'installation, bah moi je trouve que ça apporte pas grand-chose. Par contre, quand dans Dor, qui est une installation en fait où il place la caméra dans le couloir pour arriver à l'installation, et qu'en fait pour se voir sur l'écran et être pris par la caméra en même temps, il faut se situer au seuil entre l'installation et le couloir qui y mène, eh bien là, effectivement, il y a une expérience du seuil, de la limite, qui peut être un peu plus intéressant. Ensuite, donc, dans ce premier corpus, il s'achève sur une sélection de vidéos, des vidéos courtes, même si la durée est assez étirée. Alors là, on est vraiment dans la vidéo la plus archaïque, en fait, hein, avec des effets assez simples, hein, assez même type, assez, voilà.
C'est la technologie de l'époque.
Hein. Oui. Bah, du coup,
ça a changé.
Non, mais c'est un côté, en fait, sans illusion.
L'archéologie de la vidéo.
Pour le mieux et pour le pire, ouais. En fait. C'est-à-dire que voilà, il n'y avait pas de grands effets spectaculaires, effectivement, et du coup, ça retombe un petit peu comme un soufflet. Donc voilà, cette première partie s'achève sur ce programme vidéo avec une sorte de gros plan sur Head of a Man with Death in His Mind, donc le visage d'un jeune homme inquiet, angoissé, qu'on doit supporter pendant 12 minutes. Et puis il y a le second corpus,
très grand format,
très grand format,
très grande tête en effet.
Oui, oui. Il aurait pu en faire une photo, finalement.
Le second corpus... Oui, mais ça bouge. Vous savez que c'est de la vidéo,
oui,
en fait.
Oui,
c'est ça, le principe,
oui, oui. Mais c'est ça, en fait. C'est ce principe du différement vraiment minuscule, etc. C'est de l'inframince. Alors, pourquoi pas, on y est sensible, ou pas.
Donc, on a compris que votre choix, c'était ou pas.
Ou pas, peut-être. Non, parce qu'en ou même pas, temps, vraiment, l'artiste m'a intéressé. Je trouve que, voilà, les œuvres présentées bon, m'ont pas plus accroché que ça, parce que je suis pas le bon public pour ces installations interactives, ça, c'est évident. Mais voilà. Et puis, il y a le second corpus, la seconde partie, qui, elle, m'a plus désarçonné. En fait, on est dans le travail à post-96, où il donc se tourne vers l'extérieur, où l'image arrêtée devient une image en mouvement. Voilà. Bon, alors là...
Descriptions peut-être.
Des projections de diapositives hyper réalistes, qui sont présentées dans une sorte de chambre noire, où on se retrouve face à des motifs, on ne sait pas si c'est des motifs biologiques, des organes, un cœur, ou des objets géologiques, voire astro, une pierre, un nuage, une planète. Moi, je trouvais ça très illustratif et j'ai pas bien compris où ça voulait nous emmener. Ensuite, on a des vidéos qui prennent l'apparence de tableaux, de tableaux numériques. Alors là aussi, on a cette sorte de décalage moindre qui... Alors, pour le coup, je trouve qu'il y a une facture très proche, très, très graphique, très picturale et très proche de Nicolas de Staël, en fait.
Ah sorte oui, de
carrément. Oui, complètement, hein. Oui.
Voilà. Et puis, alors, la pièce finale, j'ai pas compris. Donc là, on est sur convergence d'images vers le pont, vers le port, pardon, tournée à Pornic. Donc, c'est 9 séquences de 40 secondes diffusées sur 4 écrans synchronisés en quadriphasé.
Virgule.
Et là, en fait, je sais pas. Moi, j'ai pas été. Je me suis assez ennuyé dans cette dernière salle. Et alors, quand j'ai feuilleté le catalogue, qui au demeurant est très intéressant, j'ai vu des séries en fait de photos des années 80 qui reprenaient en fait cette esthétique-là assez voilà, assez minimale, assez paysagère, mais assez brutaliste aussi, qu'il avait pris en fait à Staten Island et dans le Maine américain, et que je trouvais vraiment hyper intéressante, mais qu'on ne retrouve pas dans l'exposition. Donc j'ai l'impression que c'est quand même une expo, moi, qui m'a donné envie d'aller voir ailleurs, mais qu'en elle-même a été peut-être un peu limitée dans ce qu'elle présentait.
Ah, c'est vidéo, Ergo Sum, c'est donc le choix est déjà dans le titre. Vous voulez voir les photos, donc il faudra faire une autre exposition de Peter Campus. Corinne Rondeau, la mou un peu aussi.
Hein. Oui, je suis restée perplexe face à cette exposition, mais après coup, moi aussi. Parce que je l'ai trouvée pas que sèche ou austère, je l'ai trouvée tout le temps dans la manière... Enfin, si vous voulez, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de vide. Or, dans le catalogue, il est montré que ces installations étaient montrées dans des grands espaces aussi. Je me suis dit, ce n'est pas donc la scénographie du jeu de pommes qui m'induirait en erreur sur... Voilà, bon, voilà. Parce que moi, j'ai vu beaucoup trop d'espace. Que les vidéos, par exemple, que vous n'avez pas aimées, qui ont effectivement ce côté facture, on est vraiment dans ces années-là, je regrette qu'elles n'aient pas été sur des moniteurs comme à l'époque, et non pas les unes après les autres, mais dans une coexistence. Ça m'aurait beaucoup intéressé. Parce qu'on aurait varié sur les durées, parce qu'on aurait vu un mur d'images, et pas deux canapés avec deux écrans plasma, pour voir des choses des années 70. Donc ça m'a beaucoup gênée, parce que cette salle où il y a notamment cet autoportrait, c'est vide. Moi, j'ai un souvenir de cette exposition vide. Mais par ailleurs, comme l'indiquait l'installation d'or, mais aussi cette espèce d'influence forte qu'il reconnaît de Bruce Nauman, Going Around the Corner Piece, qui est plus forte chez... Alors parce que Bruce Nauman, c'est celui qui fait vidéo corps. Il sait que la vidéo, l'art de la vidéo, c'est la vidéo du corps, avec du corps. Et là, je dois dire que quand on court autour de la pièce, il vous dit quelque chose de votre propre apparition. Là, dans le dispositif qui est fermé, parce qu'il a un rapport à la chambre, dira-t-il, dans un archive qui est édité, une sorte de journal, mémoire de son travail, hein, qu'il est resté dans sa chambre et qu'il a tiré sa chambre à lui vers ses dispositifs de circuit fermé, etc. Quand vous passez à travers ça, bon, moi j'ai trouvé ça très fantomatique, j'ai trouvé ça pas assez marqué, et en même temps, je crois que c'est, alors pour le coup peut-être un mélancolique, moi j'ai trouvé ça très dépressif.
Ah oui.
J'ai trouvé ça très dépressif, alors pas pour dire que c'est une caractéristique de Peter Campus, je le connais pas et je peux pas le dire, enfin ça serait une erreur de ma part, mais il y a quelque chose de fantomatique. Il est toujours dans la traînée, il est toujours dans une sorte d'extinction. Quand vous êtes face à une autre installation, Optical Sockets, je crois que c'est ça, vous arrivez et 3 secondes après, vous avez votre image qui apparaît, comme 4 ans plus tard, Dan Graham fera... Present Continuous Past, vous savez, vous rentrez dans la pièce, le miroir, la caméra, 10 secondes après, si vous arrivez trop vite, vous vous voyez même pas. Mm-hmm. Donc là, il y a un temps très court qui est fait pour ne pas vous rater, pour vous voir arriver comme... Il y a quelque chose de fantomatique. Le corps est un fantôme chez Peter Campus. Mais je crois aussi, et ça m'a marqué d'ailleurs dans la dernière... partie qui est beaucoup plus déceptive avec cette peinture de Nicolas de Staël qui est évidente. Il dit que quand même sa première œuvre, ses parents l'ont jetée, il avait 13 ans, c'était une peinture. Et c'était quoi? C'était, il avait peint un mât de bateau. Oh, tiens, bonjour, le porni.
Pornic, allez.
Avec un homme, avec des jumelles accrochées. Et ils se disent, mais... Voilà, 13 ans, un tableau, c'était de la peinture, il a commencé par de la peinture.
Et 73 ans.
Voilà, et là il fait quoi? Il fait de la vidéo comme on ferait de la peinture. Et donc il y a une espèce...
83 même.
Il y a quelque chose de très, je dirais, c'est comme s'il a, il faisait espace d'un temps qu'il a perdu, dont il veut refaire tout le temps la trace. Enfin, c'est très très curieux. Moi, je suis pas très emballée. Hein,
donc, dernier mot rapidement, Florian Guettet.
Oui. En même temps, c'est peut-être un peu contradictoire, mais il faut quand même pousser les gens à y aller parce qu'il y a quand même une entrée en fait dans l'art vidéo que j'ai trouvé intéressante, qui est ce rapport au narcissisme. C'est-à-dire que l'art vidéo est articulé, indexé sur l'individualisme contemporain qui est en train de monter. Effectivement, si on regarde Dan Graham, bien sûr, mais aussi Denis Oppenheim, Vito Acconci, on a ou Johan Jonas aussi, on a plein de d'œuvres qui travaillent sur ce rapport à soi, qui n'est pas non plus le rapport à soi qu'on a dans la psychanalyse, le stade du miroir, puisque c'est beaucoup plus spectral, effectivement, fantomatique, et donc ça donne une sorte de déchéance de l'identité ou du narcissisme.
Allez voir par vous-même. Vous avez jusqu'au 28 mai pour aller voir l'exposition de Peter Campus qui s'appelle Vidéo Ergo Sum. C'est au Jeu de Paume à Paris. Et nous concluons avec le jeu de la dispute et Justine Dibling qui nous a rejoint pour nous donner la question et la réponse du jeu d'hier pendant que Corinne Rondeau tombe de son siège. Justine.
Stade du miroir. La question, donc, quelle est la ville où se trouve la maison dans laquelle Manuel de Oliveira a tourné son film Testament, Visite ou Mémoire et Confession? Et la réponse était Porto.
Et ce soir, des places de cinéma pour le film Adieu Mandalay de Midi Z ou Z, sorti aujourd'hui en salle, Justine?
Bon, pour quel film Midi Z a reçu le prix du meilleur réalisateur au 16e festival du film de Taipei?
Votre réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou vous abonner au podcast de nos émissions. Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook La Dispute FC, le Twitter Dispute FC. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la musique en compagnie d'Emmanuel Giuliani et Emmanuel Dupuis. À notre sommaire, La Fille de Neige de Rimsky-Korsakov. C'est en ce moment à l'Opéra de Paris dans une mise en scène de Dmitri Tcherniakov. Nous parlerons d'Alcyone et de Marin Marais, dirigé par Jordi Savall, mise en scène Louise Moati. C'est à l'Opéra Comique. Et puis nous parlerons également de l'ouverture de la scène musicale de l'île Seguin à Boulogne-Billancourt. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.